Jeanne d'Arc, la virile Pucelle au secours du roi. Charles VII ne va pas tarder à voir arriver une jeune fille étrange, vêtue de noirs habits d'homme. Jeanne, Jeanne! Mais quelles sont donc ces voix qu'une modeste paysanne de Don Rémy entend pendant l'hiver 1428, alors qu'elle est au champ, vers midi? Jeanne, Jeanne! Est-ce le vent? Sont-ce des troubles de l'oreille moyenne? Séquelles de mastoïdite à répétition dont aurait souffert la jeune Jeanne et qui lui font entendre avec quelques heures de retard le bonjour de ses parents? Ne serait-ce pas plutôt Saint-Michel, Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine? Ces saints, ne supportant pas la présence des Anglais en France, n'auraient-ils pas décidé de rompre le silence coupable et éternel des espaces infinis pour suggérer à Jeanne, pucelle, pure et pieuse, d'aller bouter ces intrus hors du royaume? Eh bien, si. La troisième proposition est la bonne. Et Jeanne, immédiatement, se met en route. Elle va confier le contenu de sa communication avec les saints au capitaine Baudricourt, commandant la place de Vaucouleurs. Sans sourciller, Baudricourt, séduit par cette jeune fille en habit d'homme, par son audace mêlée d'une grâce trouble, lui accorde une escorte. Et la voilà partie pour Chinon, où se trouve le roi avec sa cour. Pendant 10 jours, elle va voyager dans une campagne infestée de brigands de toutes sortes, d'anglais, de bourguignons. Vêtue de noir, les cheveux coupés au bol, montée sur une haridelle et entourée de son escorte, composée d'une dizaine de gens en armes, elle arrive à Chinon précédée d'une rumeur qui la présente comme porteuse d'une incroyable nouvelle pour le roi Charles. On se demande bien ce que va révéler cette jeune fille de 17 ans. Charles souffre de tout ce que lui ont fait subir sa mère et Philippe le Bon en signant le honteux traité de Troyes. Plus pour longtemps. Jeanne va lui apprendre l'incroyable nouvelle. Le 7 mars 1429, après avoir passé la nuit dans une maison que le roi a choisie pour elle, mais ils ne se sont jamais rencontrés, Jeanne d'Arc est interrogée sur ses intentions. Elle répond
« J'ai reçu du roi des cieux le commandement de repousser les Anglais qui assiègent Orléans et de conduire le roi de France à Reims pour qu'il y soit sacré et couronné. »
On s'étonne et on s'émerveille. Les évêques décident de laisser Jeanne agir. Le lendemain, 8 mars, elle entre dans la grande salle du château de Chinon. Éclairée par une centaine de torches, cette salle est occupée par plus de 300 gentilshommes. Elle se répète un passage important de la communication qu'elle a eue avec les trois saints. « Va hardiment, lui ont-ils dit. Dès que tu seras devant le roi, il te recevra, et ce que tu lui diras, il le croira. » Oui, mais voilà, où est le roi dans toute cette assemblée? Elle ne l'a jamais vu. L'inexplicable arrive alors. Elle s'avance vers l'estrade du roi, remarque un petit groupe d'hommes et s'agenouille devant celui à qui elle dit
« Gentil dauphin de France, Dieu vous donne longue vie. »
L'homme lui répond « Ce n'est pas moi, c'est lui », en montrant son voisin, le comte de Clermont, de la bataille des Harengs. Mais Jeanne insiste, affirme qu'elle ne se trompe pas et délivre son message. Le roi est troublé. Il s'en va vers une fenêtre, discute une heure avec la pucelle et revient transfiguré parmi les siens. Jeanne vient de lui révéler un secret qui ôte définitivement le doute sur sa filiation. Il est bien roi de France et non bâtard. Dans les jours qui suivent, la foule chinonnaise encourage le roi, la pucelle et l'armée qui partent vers Orléans, en faisant un petit détour de 3 semaines par Poitiers. Pourquoi? Pour que le Parlement et l'Université de Paris, transférés dans cette ville, s'assurent que Jeanne n'est pas une illuminée de plus, car l'époque en regorgeait, palliatif à une institution spirituelle en déshérence. Enfin, Jeanne arrive à Orléans assiégée par les Anglais. Elle réussit à entrer dans la ville avec quelques chevaliers, galvanise le courage des habitants. Les troupes françaises parviennent à la rejoindre et le combat commence le 4 mai 1429. les premiers Anglais sont délogés des bastilles qu'ils occupaient. Le 7 mai, Jeanne est en train de déplacer une échelle contre une muraille, en pleine bataille, lorsqu'elle reçoit dans l'épaule un trait d'arbalète. Elle est transportée à quelque distance, mais sans attendre de médecin, elle retire elle-même la flèche, y applique de l'huile et du lard. Soudain, sentant que son absence provoque la reculade de ses troupes, elle sort de sa courte retraite et s'élance, son épée en main, son étendard de l'autre, l'huile et le lard à l'épaule, vers le lieu où l'engagement est indécis. 10 minutes plus tard, la victoire est acquise. Dans le mois qui suit, Jeanne ne cesse de remporter des succès qui ouvrent à Charles VII la route de Reims, où il entre le 16 juillet 1429. Le 17, il est sacré roi de France. D'autres combats sont engagés, d'autres victoires sont remportées contre les Anglais, mais Paris reste à prendre. Et, contrairement à ce qu'on peut penser, Charles VII n'est pas pressé de reprendre la capitale. Il préfère la négociation à l'affrontement. Et Jeanne la guerrière commence à le gêner dans ses démarches de paix. Bientôt, la Pucelle se retrouve seule, presque abandonnée lorsqu'elle engage un siège devant une ville. Cela n'empêche pas le roi de l'anoblir ainsi que toute sa famille et la descendance de celle-ci. La France s'est désormais réveillée. Elle se met en lutte contre l'occupant anglais, mais cela ne plaît pas à tous les Français, ceux du Nord en particulier, qui s'accommodaient fort bien de la présence anglaise. De leur côté, les Bourguignons en veulent beaucoup à Jeanne. Elle a fait couronner roi de France le petit roi de Bourges, qui est aussi un petit Armagnac. Les Bourguignons décident de capturer Jeanne. Le 23 mai 1430, ils assiègent la ville de Compiègne, occupée par Jeanne, qui tente alors une sortie avec ses combattants. Les Bourguignons la font reculer vers la porte d'où elle vient. Sa troupe peut se mettre à l'abri en rentrant dans la ville, mais au moment où elle-même va passer le pont-levis, celui-ci se relève un peu trop tôt. Voilà Jeanne isolée au bord des douves, pleine d'eau. Ses ennemis la capturent, la transfèrent au château de Jean de Luxembourg, qui la vend aux Anglais pour 10 000 livres. Ceux-ci n'ont qu'une idée en tête, la faire disparaître. Qui pourrait intervenir? La sauver? Charles VII? Mais il n'en fera rien. Du 21 février au 30 mai 1431, le procès de Jeanne d'Arc se tient à Rouen. Il faut trouver un motif acceptable pour la traduire devant le tribunal. Étant donné qu'elle ne semble pas reconnaître l'autorité de l'Église catholique, elle est jugée comme hérétique. On l'accuse ainsi de sorcellerie. Les auditions sont conduites par l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon. C'est un universitaire qui s'est rangé du côté des Bourguignons et s'est trouvé mêlé, en tant que recteur de l'Université de Paris, à tous les troubles qui ont eu lieu dans la capitale au temps des Cabochiens. Il est entièrement acquis à toutes les causes anglaises. Son rôle est de faire mourir Jeanne. Il n'est pas difficile à ce licencié en droit canonique, à ce docteur en théologie, de mettre en difficulté Jeanne, qui se défend malgré tout avec adresse et à propos. Mais le 23 mai 1431, quand Cochon veut l'obliger à abjurer, à renier toute son action, elle refuse. In extremis, un élément de la sentence doit être examiné par des clercs. Cela lui donne le temps d'abjurer car, dit-elle, elle préférerait être décapitée 7 fois plutôt qu'être brûlée. Le 28 mai, Cochon vient voir Jeanne en sa prison et Jeanne lui dit que Dieu et les saints ont pitié d'elle parce qu'elle a trahi en abjurant, parce qu'elle a menti en reniant tout ce qu'elle a fait. Cochon exulte. Elle est relapse, c'est-à-dire qu'elle vient de retomber dans l'hérésie. Il ne faut pas perdre de temps. Le 30 mai 1431, elle est coiffée d'une mitre sur laquelle on peut lire « hérétique »,« relapse », »,« apostate » et « idolâtre ». À 9 h du matin, 120 hommes en armes l'entourent, place du marché à Rouen. Elle monte sur le bûcher. Jusqu'au dernier moment, Jeanne a espéré un soulèvement populaire, un complot qui la libérerait, l'intervention du roi, Du pape? Rien. Le bourreau lui lit les épaules, la taille, les cuisses et les genoux. Il tremble. Il sait que Jeanne n'est pas une condamnée ordinaire. Les membres du tribunal et les Anglais sont au premier rang des spectateurs. Cochon est le mieux placé. Tous attendent que le bûcher soit allumé, que la fumée s'élève, enveloppe Jeanne qui crie
« Jésus !»
Puis plus rien. Ils partent, satisfaits. En fin d'après-midi, les cendres de Jeanne sont dispersées dans la Seine.
La pragmatique sanction. En mai 1437, un concile se réunit à Bâle, sous le pontificat d'Eugène IV. Les pairs envoient à Charles VII les décrets qu'ils ont pris afin d'affirmer l'autorité de l'Église. Charles VII en profite pour leur envoyer sa réponse ferme et précise qui porte le nom de « pragmatique sanction ». Elle comporte notamment ces termes. La cupidité du fisc pontifical, où l'on comprend que le roi ne veut plus que des taxes et bénéfices divers soient perçus directement par l'Église, sans son contrôle. Par ailleurs, il précise qu'il lui reviendra de nommer les évêques et abbés. Charles VII veut être libre en son royaume.